Un rêveur, une découverte, accident, c'est la règle de trois d'Alain Prochian. J'ai passé mon enfance dans les livres, j'étais un rêveur. Né en 1948 à Paris, il grandit en s'adonnant à la lecture avec passion. Je n'ai pas du tout la vocation scientifique, je l'ai épousé par faiblesse car c'était plus sûr. Étudiant, il suit un parcours d'excellence, Normal Sup, laboratoire du CNRS puis DEA. Au début des années 70, il prépare sa thèse entre l'Institut Jacques Monod, pôle de recherche en biologie à Paris, et le MIT aux États-Unis. À l'époque, il s'intéresse aux auteurs qui théorisent la science, Charles Darwin et Claude Bernard. En 76, Alain Prochian soutient sa thèse sur l'ARN du virus de la mosaïque jaune du navet. Ce n'était pas parti glorieusement, le navet n'avait pas trop la cote dans la biologie moléculaire. Dans les années 80, il se consacre à la morphogénèse cérébrale, c'est-à-dire au développement du cerveau pendant la vie embryonnaire. En 87, il publie les stratégies de l'embryon, en 89, la construction du cerveau.
La morphogénèse est une chose d'abord très belle. Ensuite, elle a une fonction de mémoire, c'est-à-dire que nous pensons que la mémoire peut également s'emmagasiner dans le cerveau sous l'espèce de modification de forme.
En 90, il fait une découverte étonnante. Sur la base d'observations empiriques, il acquiert la conviction que des protéines sont capables de passer directement du noyau d'une cellule à celui d'une autre. Jusque-là, on considérait que c'était impossible. Il met 15 ans à prouver qu'il a raison. Aujourd'hui, cette découverte ouvre des pistes nouvelles pour le traitement de nombreuses pathologies. Membre de l'Académie des sciences, professeur au Collège de France, Alain Prochian est aussi auteur de théâtre. Avec le metteur en scène Jean-François Perret, il crée notamment la génisse de pythagoricien, ex vivo in vitro ou encore les variations Darwin interprétées par Irène Jacob et Mathieu Amalric.
Le cerveau veut voir l'invisible.
Ah oui, le cerveau.
Mais c'est quoi le cerveau?
T'as qu'à aller voir.
Il n'y en a pas tellement des spectacles qui amènent la science sur un plateau. Et c'est une façon de le faire qu'une façon de le faire unique.
Dans Accident, il propose une réflexion sur la structure et l'évolution de la recherche scientifique en France. Il milite pour une plus grande liberté d'inventer. Page 14, il évoque ceux qui, stimulés par leur imagination spéculative et la qualité de leur intuition, peuvent, avec un peu de chance, faire bouger les frontières.
Non mais un parcours impressionnant. Alors, vous détestez parler de vous, de votre enfance, de votre parentèle, de vos origines, et vous dites « je suis adepte du comité anti-racine ».
Oui.
Et ça, c'est formidable au moment où tout le monde est de plus en plus intéressé par son déterminisme et son assignation identitaire. Vous, alors, vous récusez ça, vous dites au fond « on est ce qu'on devient », c'est ça?
Oui, oui, oui. Et on change tout le temps.
Et on change, et vous êtes encore, vous, en train de vous métamorphoser.
Pour un certain temps encore, oui.
Oui, le plus longtemps possible, un homme en mutation perpétuelle. Alors, à 43 ans, vous découvrez des protéines voyageuses, un truc dingue, et vous dites qu'il y a des applications thérapeutiques possibles, ou des applications en fonction de certaines pathologies, mais lesquelles? Est-ce que c'est intéressant, d'ailleurs, quand on est un chercheur, de savoir qu'il y aura des applications dans le cas de certaines pathologies par rapport à sa découverte?
Comme j'ai beaucoup lu Claude Bernard, comme vous le savez, je vous dirais qu'il n'y a pas une physiologie pour la santé et une autre pour la maladie. Donc, une maladie, c'est une physiologie qui déraille. Mm-hmm. Donc, quand on trouve une nouvelle voie physiologique, ça ouvre sur de meilleures compréhensions des pathologies ou une compréhension différente des pathologies. Donc, il y a forcément des applications. C'est pour ça qu'une recherche fondamentale ouvre forcément à terme sur des applications.
Vous parlez avec les morts, vous parlez avec
beaucoup.
Claude Bernard, vous parlez avec Charles Darwin. Bon, auteur de la théorie de l'évolution, rappelons-le.
On a beaucoup discuté, Darwin et moi, oui. Et puis, surtout Bernard, d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est surtout Claude Bernard qui va le plus faire réfléchir. Turing aussi.
Alain Turing.
Oui.
Grand mathématicien.
Parce que le dernier mot de la science n'élimine pas tout ce qui s'est passé avant. Donc, en fait, on continue à travailler sur des idées qui sont dans l'histoire des sciences depuis très longtemps.
Alors, venons au livre,
eh bien oui,
dans la thèse.
Ben oui, vous dites qu'il faut avoir le droit de faire des erreurs. Voilà, le droit à l'erreur, c'est votre grande thèse. Et là, on se dit, ah ben dis donc, ça fait du bien d'entendre ça, parce qu'on a dû, plein de gens ont dû en faire et en avoir honte, vous pas. Au contraire, il faut les revendiquer.
Ben, je crois que si on ne prend pas de risques, si on prend des risques, il y a forcément une erreur qui peut arriver. Eh bien, dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de commencer. Il n'y a pas de pensée sans risque.
Non, mais en fait, vous allez plus loin dans le regard sur la République des sciences. En 2004, vous disiez, pour les politiques, la science est un corps étranger. Donc, d'une certaine manière, vous considérez que tout ce qui est de l'ordre de la rêverie, du parcours un peu sinueux, de la serendipity, comme on dit, trouvé de manière hasardeuse ou trouvé en s'étant trompé, tout ça est totalement banni au profit de quoi ? Du court-termisme, du retour sur investissement immédiat. Et c'est, et vous le déplorez?
Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de culture scientifique dans le monde, je dirais, décisionnel. ne va pas dire les politiques, c'est trop large. Mais la culture scientifique n'existe pas, donc les gens ne savent pas comment... comment on trouve en science et surtout comment on ne trouve pas.
Alors ça veut dire que quoi ? Il faut s'accorder de longues heures de rêverie, des années de rêverie éventuellement, le temps long.
Il faut construire. Et donc, la construction d'un scientifique, c'est quelque chose qui se fait sur le temps long, à travers évidemment la recherche qu'il peut faire au laboratoire, bien entendu, mais aussi à travers tout ce qu'il a pu lire. Et puis aussi à travers de ce que j'appelle la science nocturne.
Qu'est-ce que c'est la science nocturne ?
La science nocturne, c'est ce que vous appelez la rêverie, c'est-à-dire que... Une idée qui vous occupe en permanence, qui ne vous lâche pas et en toutes circonstances. Donc en fait, qui vous accompagne dans tous les actes de la vie, même les plus triviaux. Mm-hmm. C'est ce que j'appelle la science nocturne. La littérature scientifique, parce qu'il y a une littérature scientifique, c'est de la science nocturne. Oui. Avoir fait un petit peu de théâtre. Je n'ai pas fait de théâtre, c'est-à-dire que j'avais beaucoup... Moi, je jouais les fonds de cour, j'envoyais la balle, si vous voulez. Donc,
au metteur en scène qu'on a vu tout à l'heure.
C'est Jean-François Perret qui fait tout. Oui. Mais cette façon de faire de la science poétiquement modifiée, en la mettant sur un plateau, eh bien, c'est ce que j'appelle de la science nocturne. Ça vous oblige à lire. C'est-à-dire que, par exemple, Perret m'a obligé, on dit lire, on dit relire, mais m'a obligé à lire... Darwin de A à Z, ou Bernard de A à Z, ou Turing de A à Z. Et évidemment, on apprend plein de trucs qui vous concernent immédiatement dans ce que vous faites.
Les jeunes ne font plus ça ? Les jeunes scientifiques, les jeunes chercheurs qui sont poussés par la nécessité de toujours produire plus
beaucoup,
de publications
Beaucoup aimeraient, mais le cursus qu'on leur impose ne leur laisse pas le temps de faire autre chose que très exactement ce qu'on leur demande de faire. Alors, il y en a qui prennent le temps, mais c'est rare. C'est pas facile.
C'est pas facile. Alors, Fanny, vous vouliez évoquer avec Alain Prochian ici présent Zurich, qui désire sortir des classements apparemment sclérosants.
Oui, en l'occurrence, un classement, celui du magazine Times Higher Education, qui, dans sa dernière édition, a classé 80e meilleure université du monde, celle de Zurich. Alors, pour rappel, l'université de Zurich, c'est l'une des plus prestigieuses de Suisse et même du monde. De nombreux prix Nobel y sont passés, en l'occurrence Albert Einstein, par exemple. Elle a donc dit stop à ce classement il y a plusieurs semaines. Elle ne fournira plus aucune donnée au magazine pour être classée, intégrée à ce classement. Alors, pourquoi ? Eh bien, en fait, elle dénonce le biais de ce classement qui se concentre, dit-elle, sur des résultats mesurables et incite donc, vous en parliez, les universités désireuses de gagner des places donc dans ce classement à produire toujours plus de recherches scientifiques, d'articles au détriment du fond et de la qualité de ces articles. En fait, elle estime que le classement favorise les recherches inutiles. Alain Prochian, est-ce que vous diriez, vous aussi, que ce genre de classement bride ou détourne, entre guillemets, la recherche ?
Le classement, c'est quelque chose qui classe un certain type de recherche. Pas forcément mauvais. C'est-à-dire que les propos trop généraux ne sont pas des propos très intéressants. Mais le classement, il faut savoir ce que c'est, ce que ça mesure. Il faut voir qu'il y a des choses à côté qui échappent au classement. Je pense qu'il y a des recherches extraordinairement importantes qui n'arrivent pas à se faire connaître parce qu'elles sont trop difficiles, elles prennent trop de temps. Et elles ne peuvent pas être publiées dans les très grands journaux parce qu'il y a toutes sortes de biais à la publication. Il y a tout un entre-gens aussi à la publication qui fait que ces travaux qui ne sont pas encore mûrs, ou qui ne sont pas encore reconnus, et qui sont peut-être parmi les plus importants, on ne sait jamais, parce que ça rate toujours, ne sont pas dans ces classements. Et c'est effectivement, faut savoir ce que le classement mesure.
Est-ce que c'est toujours une question de moyens financiers ? Est-ce que vous estimez que la France n'aime pas ses chercheurs ? Ou alors, est-ce qu'il y a un sentiment qu'on peut avoir de sorte de lamentation du chercheur qui estime n'avoir jamais suffisamment pour chercher ?
Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'effectivement, la France est particulièrement nulle pour ce qui est du financement de la recherche.
À ce point ?
Comme vous le savez,
on est à 2,2
points du PIB. À Lisbonne, il y a une vingtaine d'années, il avait été décidé qu'on ferait une économie de la connaissance en Europe et qu'on monterait à 3% du PIB les investissements en recherche et développement.
Et on est à 2,2%.
Et on était à 2,2 et on est toujours à 2,2. Nos collègues allemands sont à 3. Alors ça, c'est une partie, c'est pas négligeable, parce que 16 milliards par an pendant 20 ans, ça finit par faire du monde. Mais il y a plus que ça, il y a l'Organisation mondiale de la recherche. C'est-à-dire qu'il faut régler les problèmes français pour être au moins aussi bon que les autres, mais il faut aussi changer, si vous voulez... Enfin, je pense qu'il faut changer. Je peux me tromper complètement, je me trompe toujours, une fois de plus, ne me fera pas de mal. J'ai l'habitude, mais je pense sincèrement qu'il faut aussi changer la façon de faire de la science au niveau mondial, c'est-à-dire rendre la science plus libérale, c'est-à-dire que réintroduire de la discussion scientifique. Voilà. et arrêter de classer, ranger, financer à court terme. Il faut donner de la liberté aux chercheurs à partir du moment où ils ont démontré qu'ils étaient capables d'en faire quelque chose de bien, évidemment.
Vous qui dites « je crois que je ne crois en rien »,
oui.
Vous croyez en quoi ?
Je crois en rien du tout. D'ailleurs, avec Jean-François Perret, on a fait écrire une pièce qui s'appellerait « L'art de ne croire en rien ». Non, je ne crois en rien. Pourquoi ?
C'est une bonne chute, non ? Non, c'est une chute comme une autre. C'est parfait. Alain Prochian, accident, regard sur la République des sciences. Oui, il n'y a pas que de la déploration, il y a des tas de suggestions intéressantes pour les pouvoirs publics et pour les chercheurs, jeunes et un peu moins jeunes. Merci encore.
Merci à vous.
C'est chez Odile Jacob, votre éditeur, éditrice historique. Merci.